Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11 pour notre méditation de ce jour. Au nom de Jésus. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes, il a paru dans une situation d'homme, il a accepté de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est plus important que tout autre nom, afin que par respect pour le nom de Jésus, tous les êtres qui se trouvent dans les cieux et sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Est-ce que vous vous rappelez du personnage dans le théâtre, une pièce de Molière, Harpagon ? Ceux qui connaissent cette histoire, dans le théâtre de Molière, il y a un personnage qui s'appelle Harpagon. Le personnage a donné lieu à cet antonomase, on va dire, Harpagon, pour désigner une personne avare ou radine. Pourquoi je vous parle de cela, d'Harpagon ? Parce que dans le texte que nous avons ce matin, Paul utilise ce mot Harpagon au verset 6, dans le terme grec. Je vais lire d'abord le texte en français courant et je vais refaire la traduction à partir du texte grec. Voici ce qui est dit dans nos Bibles. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Donc, vous entendez dans nos traductions françaises, c'est pas explicite. Mais si on se plonge dans le texte grec, le texte original, j'étais surpris de voir ce mot « harpagon », qui veut dire quelque chose à saisir, quelque chose à dérober ou quelque chose à garder jalousement. Voilà le sens en grec. Et donc si je refais ma retraduction du verset 6, voici ce que ça donne. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas saisi ni volé le titre égal à Dieu. Si on traduit correctement le mot harpagon. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas saisi ni volé le titre égal à Dieu. Il l'a cédé, il ne l'a pas volé, il l'a même partagé, son titre d'enfant de Dieu à nous tous. Lui qui est enfant de Dieu par enfantement, nous, nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. Et ça tombe bien avec le catéchisme d'aujourd'hui parce qu'on commence à arriver à la fin du parcours pour ceux qui se préparent au baptême et à la confirmation. Le baptême, c'est un acte d'adoption. On devient enfant de Dieu par adoption. Et c'est cette adoption-là qui nous donne cette filiation avec Dieu. Et tout cela n'a été pas rendu possible tant que le Christ a saisi ce titre à lui seul, mais il l'a cédé, il l'a partagé. Et pourquoi j'ai choisi l'expression « il n'a pas volé le titre égal à Dieu » ? Pour une simple et bonne raison, Paul compare Jésus à Adam, le premier Adam, en comparaison à le dernier Adam, pardon, en comparaison au premier Adam. Ce dernier Adam a cédé son titre. Il a partagé son titre. Contrairement à Adam, le premier Adam, il a essayé de voler le titre égal à Dieu. C'est ce que le diable lui a proposé. Tu seras comme lui. Si vous mangez de ce fruit défendu, vous serez comme Dieu. Donc, le premier Adam a voulu voler le titre de Dieu, contrairement au dernier Adam qui a cédé le titre qu'il avait. Et là, chers amis, le paradigme du royaume des cieux est totalement à l'opposé du monde où nous vivons. L'être humain a été formaté depuis sa naissance à une quête de gloire. L'être humain est formaté à une quête de croissance, de titre, d'honneur, de reconnaissance. Sa vie est motivée de tout cela, que je sois reconnu à ma titre personnel, que je sois reconnu dans le domaine où j'évolue. Qu'on dise « Ah, ça c'est quelqu'un !» C'est un peu notre leitmotiv de tous les jours. Et même pour arriver à cet objectif, l'être humain est prêt à écraser l'autre pour atteindre son objectif. Comme dit, la fin justifie les moyens, disent certains. On vit dans un monde de requins. Il n'y a pas de place pour les affaiblis de la vie. Je dis bien par les affaiblis, mais pas faibles. Les affaiblis de la vie. N'est-ce pas ce que disait Darwin dans sa théorie de l'évolution ? On peut pas, il ne faut pas tout rejeter ce que Darwin a dit. Il y a certaines choses qu'il dit qu'il faut quand même reconnaître. Voilà ce que Darwin avait dit. Ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent. C'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement qui survivra, comme s'il avait prophétisé ce qui va se passer. Seule l'espèce qui survivra, c'est l'espèce qui pourra s'adapter à la situation qui existe. Mais tout compte fait, celui qui a cette capacité de s'adapter sont ceux qui sont forts, n'est-ce pas ? Forts psychologiquement, forts dans leur identité. Donc ceux qui sont affaiblis dans la vie, ils n'auront pas cette possibilité de s'adapter. Ils suivent le cours de la vie, ils sont ballottés par la vie. Ah donc, en revenant à cet hymne pascal, parce qu'on entre aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le dimanche des Rameaux, on commence la semaine sainte aujourd'hui, le premier jour de la semaine. Cet hymne de l'élévation pascale parle bien sûr de la passion du Christ, bien sûr, mais normalement, on devrait lire ce lectionnaire à partir du verset 5. On ne l'a pas fait, mais moi je vais quand même relire ce verset. Je vais lire ce verset 5 qui est dit « Ayez entre vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ ». C'est-à-dire que tout ce qu'on avait lu à partir du verset 6 à 11, telle est la disposition de Dieu, de Jésus. Donc si nous disons « chrétiens, ayez cette disposition-là en vous », dit Paul. Donc le verset 5 ici sous-entend que Jésus avait une disposition tout à fait différente qu'aurait une personne super puissante. Dans la société où nous vivons, les personnes super puissantes veulent montrer leur force. Mais le Jésus que je vous prêche aujourd'hui et ce Jésus que moi je vénère, c'est le Jésus qui se montre faible à la croix. Comment les chrétiens peuvent dire que ce Jésus est Dieu et Seigneur et pourtant on voit un Jésus qui se laisse faire? On lui a tapé dessus et on l'a dit « Devine qui t'a frappé ?» Il n'a pas répondu. On lui a craché dessus, on s'est moqué de lui. C'est ce Jésus-là que nous appelons Seigneur. Et le message de la passion ouvre, selon moi, une fenêtre d'espoir pour l'humanité, cette humanité affaiblie, c'est-à-dire que le faible, le nul, ne vaut rien de la société, n'est pas un déchet, ni un moins que rien. Il a entièrement sa place dans le plan de Dieu. Voilà le message de Pâques aussi, à part le salut, bien sûr. Parce que dans la société où nous vivons, il n'y a pas de place pour les faibles. Mais dans le royaume de Dieu, celui qui est faible, il a sa place dans la société. On est étonné de voir, à travers ce texte, alors à quel point l'intérêt de Dieu sur l'homme est très important. Le psalmiste s'est posé même la question, il est étonné comment Dieu considère l'être humain. Psaume 8, verset 5, qui dit ceci. Je me demande, l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui, Seigneur? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? C'est beau ce psaume. Pourquoi tu as fait tout ça? En regardant la création de Dieu autour de nous, quand vous faites vos voyages, regardez un peu, même à travers Internet, la beauté de la création. Tout ça pour qui? Pour l'être humain qui ne dure que 100 ans maximum. Est-ce que l'investissement de Dieu vaut la peine pour cet être humain-là qui est éphémère, qui n'est que poussiéreux? Normalement, si on investit dans ce qui est durable, parce qu'on espère que ça va durer, et pourtant Dieu investit vers le poussiéreux. N'oubliez pas, Adam veut dire le poussiéreux. Celui qui passe. Et les scientifiques disent que tout ce qui existe avait déjà existé des milliards et des milliards d'années. Regardez bien la balance. Tout ça, des milliards et des milliards d'années, avec des calculs précis. Et à côté, l'homme, 80 ans. Il est normal que le psalmiste se pose la question. Je me demande, l'être humain a-t-il d'importance pour que tu penses à lui comme ça? Donc si Dieu s'est démêlé pour réaliser tous ces prodiges dans la nature si complexe, si beau, si compliqué, c'est parce qu'il est fou amoureux de l'être humain. Mais tout cela, c'est encore rien, chers amis, à côté de ce que Dieu avait fait en Jésus-Christ. Ça n'arrive même pas à la cheville de ce que Dieu avait fait. Dieu a franchi l'inimaginable. Dieu a franchi l'impensable. Dieu s'est fait homme. Dieu est devenu un serviteur, Ebed Yahvé, comme dit Ésaïe. Et il a été crucifié. Ça, c'est la folie. Mais Dieu peut faire de la folie pour montrer encore à quel point il nous aime. Selon les paroles de Paul, c'est dans cela qu'on voit la grandeur de Dieu. Si vous voulez voir la puissance de Dieu, c'est à la croix. Non, ce n'est pas dans les miracles. Ce n'est pas à travers le fait que Jésus a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Ce n'est pas ça le miracle. Ce n'est pas ce Jésus qui marchait sur les eaux qui disait « Waouh, spectaculaire !» Mais il y en a déjà des magiciens qui arrivent à marcher sur les eaux maintenant. Ça existe. Ce n'est pas ça le miracle. Ce n'est pas le fait de se faire sortir Lazare de son tombeau que tout le monde disait « Waouh, qu'est-ce qu'il est fort !» Le miracle, c'est de faire les choses qu'on n'a même pas imaginées. Un Dieu qui accepte de mourir. Ça, c'est un miracle. Parce que pour moi, un miracle, c'est quelque chose qui m'étonne, qui me dit « Mais comment se fait-il? C'est impossible de penser qu'un Dieu peut mourir !» Mais il l'a fait. Le vocabulaire « mourir » n'existe pas dans le dictionnaire, dans le ciel. Mais il a goûté cette mort. Et tout au long de la Semaine Sainte, nous allons voir à quel point il en a bavé ce Dieu. Donc si vous voulez savoir quelle est la force de Dieu, si vous voulez découvrir qui est Dieu, uniquement à la croix. Pas dans la beauté de la création, ce n'est même pas 10% de la puissance de Dieu. Mais là, on voit. Et rappelez-vous ce soldat romain au pied de la croix. Il est vraiment le Fils de Dieu. En voyant cet homme souffrir dans son agonie, aucune situation qui pourrait refléter une force mais c'est là qu'il a gagné la bataille. Dans le langage théologique, on appelle cela la kénose, c'est-à-dire Dieu qui s'est vidé. En d'autres termes, il se montre en Dieu qui descend, un Dieu qui est descendu. Et cette descente de Dieu, tout au long de l'évangile, jalonne l'évangile, regardez bien, l'ange de Dieu qui est venu vers Marie, qui lui a annoncé, rappelez-vous le Magnificat, il est dit, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit, disait Marie, mon Sauveur, il s'est penché sur son humble servante, il s'est penché. » C'est-à-dire un Dieu qui descend. Et ce n'est pas fini, il y a encore une deuxième descente. Une fois qu'il avait 30 ans, il est descendu vers le Jourdain, vers Jean-Baptiste. Il s'est agenouillé devant Jean-Baptiste, on l'a mis dans l'eau. Encore un Dieu qui descend. On l'a crucifié sur la croix et on l'a descendu dans le tombeau. Donc encore une descente, ce n'est pas fini. Et l'ultime descente, il est parti jusqu'au fond du gouffre. Il est descendu aux enfers. On va le prononcer tout à l'heure dans la confession de foi. Donc, imaginez cette descente depuis le ciel sur Marie, au Jourdain, à la croix, au tombeau et au séjour des morts. Il est venu au fond pour nous relever de là. Ça, c'est notre Jésus. Il aurait pu dire, écoutez, venez vers moi. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Il aurait pu choisir la solution la plus facile. Il aurait pu descendre au milieu de l'espace et pour dire, repentez-vous, venez vers moi. Non, il a pris l'initiative de descendre. C'est un Dieu qui s'est mouillé la chemise, comme on dit. C'est un Dieu qui se met en bas pour nous relever. Observez cette image de Dieu pendant la semaine sainte. N'attendez pas le dimanche où Dieu, où Jésus est ressuscité, mais regardez ce parcours de descente vertigineuse qu'il avait vécu. Paradoxalement, la force de l'évangile, chers amis, c'est cette idée d'un Dieu qui descend. Oui, ton Dieu, il est unique. Oui, ton Dieu, il est spécial, car il a su dépasser l'image qu'on lui a donnée à un Dieu dans notre imagination qui s'assoit sur un trône élevé. Non, ton Dieu n'est plus là-haut, ton Dieu, il est en toi. Ton Dieu a accepté de vivre avec toi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu qui vit avec nous, qui partage notre quotidien. Un Dieu qui pleure avec les siens, oui. Ce n'est pas seulement un Dieu qui sauve, mais un Dieu qui pleure aussi. Un Dieu qui soupire avec son serviteur. Un Dieu qui a faim avec celui qui a faim. Un Dieu sans abri avec les sans-abri. Un Dieu qui souffre avec ceux qui souffrent. Tel est le message de Pâques. Nous n'aimons que prêcher ce côté où ce Dieu super-héros, ce Dieu comme s'il n'a jamais bougé de son trône. Non, ton Dieu, il s'est levé de là, il a pris l'initiative de descendre au plus bas, et ensuite il relève. C'est ce Dieu-là que je vous partage aujourd'hui. Ce n'est plus un Dieu très lointain, ce n'est plus un Dieu inabordable, c'est un Dieu tout près, et qui te dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Tous les jours, jusqu'à la fin des temps.